Et au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 14h, retour sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et dès 13h30, débat autour de quelques-unes des grandes questions internationales du moment. Trump, l'Europe et l'Iran, les 70 ans de la création de l'État d'Israël. L'anniversaire est demain. Demain aussi, commémoration de l'exode de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Notre invité sera le fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Rendez-vous avec Pascal Boniface dans quelques minutes.
France Inter. Question politique, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et bonjour Natacha.
Bonjour.
Natacha en duplex depuis quelque part en France pour cause de grève SNCF. Mais magie de la technique et des techniciens de France Inter, vous êtes avec nous en studio, Natacha. On y reviendra tout à l'heure à la SNCF. On va démarrer évidemment avec ce qui domine l'actualité, à savoir cet attentat hier soir en plein cœur de Paris, dans le quartier de l'Opéra. Attentat au couteau revendiqué par l'État islamique. Un mort, quatre blessés. L'auteur de ces attaques était français, né en Tchétchénie, 29 ans. Vous l'entendiez dans le journal Livre de camp, fiché S. Il a été abattu par la police et le Premier ministre, Édouard Philippe, prenait la parole hier soir.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, moi-même, sommes en contact avec le président de la République et nous voulons dire combien la France est déterminée, absolument déterminée, à ne céder en rien aux menaces que des assaillants veulent faire peser sur elle. Nous souhaitons apporter des réponses ferme, claire. Nous souhaitons faire en sorte que les forces de police et les forces de gendarmerie puissent être à la hauteur de la tâche. Elle est immense, mais ils sont remarquables. Et je veux encore une fois dire toute la confiance et toute la fierté que nous pouvons placer dans les forces de police et dans les forces de gendarmerie. Je vous remercie.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui rendait donc hommage aux forces de l'ordre. Pas de risque zéro, déclarait François de Rugy dans Question politique. Raphaël, pas de risque zéro, c'est une manière de dire il va falloir s'habituer à vivre avec ?
S'habituer sans s'habituer, puisque ce n'est pas une situation normale. Il ne faut pas qu'on considère que c'est la normalité. Mais oui, la victoire militaire sur le terrain contre l'État islamique ne met pas fin à la menace terroriste. Il y a un phénomène qui est extrêmement préoccupant et dangereux. C'est le caractère low cost, les initiatives individuel d'un homme qui prend un couteau et qui, au nom de l'idéologie de Daesh, mais sans qu'on soit à ce moment-là, enfin au moment où je parle, convaincu ou pas qu'il y ait des relations directes avec un état-major, eh bien, décide de répondre à l'appel qui a été lancé par l'État islamique, c'est-à-dire de prendre un couteau, un camion, une voiture, et au nom d'une idéologie qu'il faut combattre, de semer la terreur. Et c'est ça qui est extrêmement terrorisant pour une société, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire d'imaginer des réseaux extrêmement complexes, une armée de l'ombre, mais c'est le terreau idéologique et des gens qui répondent à un appel. Vous vous souvenez tous de cet appel de Daesh qui est de dire prenez n'importe quelle arme, oui, n'importe où, pour tuer n'importe qui. Et donc là, on est dans ça.
Natacha.
Oui, à ceci près que ce qu'on observe tout de même, ce sont des profils qui se ressemblent de plus en plus souvent, c'est-à-dire des gens qui sont soit de nationalité étrangère, on a eu un Tunisien, on a eu des gens qui sont, ou alors qui sont, comme celui-ci apparemment, naturalisés récents, et qui sont donc arrivés en France, qui sont présents sur le sol français, qui se radicalisent, qui sont fichés S, c'est-à-dire qu'ils sont repérés, et pourtant, on ne fait rien, on ne peut rien faire. Et c'est là où ça devient problématique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, réfléchir aux moyens politiques de neutraliser en partie, puisque nous sommes bien tous d'accord que le risque zéro n'existe pas et qu'il n'y a rien de plus compliqué que de prévenir ce genre de passage à l'acte individuel, oui, mais il va falloir à un moment donné répondre à cette menace précise qui est celle de gens qui se retournent contre la France, mais qu'on a dans le
viseur. Mais comment faire quand ils n'ont pas d'antécédent judiciaire, Natacha ?
Alors, c'est tout simplement cette fameuse, on en revient toujours là, à cette question de l'état de droit. Qu'est-ce qui est dans l'état de droit ou qu'est-ce qui n'y est pas? Or, il y a dans l'état de droit, puisque c'est dans notre code civil, il y a l'intelligence avec l'ennemi, par exemple. Il suffirait, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, aucun parquet n'attaque pour intelligence avec l'ennemi, pour voir ce qui se passerait, pour voir comment les juges utiliseraient cet outil.
Raphaël.
Oui, et c'est vrai que la litanie des gens fichés qui commettent des attentats choque légitimement. Et il n'y a aucune question en fait qui doit être taboue face à une situation comme celle-là. Simplement, moi, je me méfie des réponses hâtives des commentateurs qui vont sur les plateaux de télé et qui nous expliquent qu'il suffit d'enfermer les fichés S. Or, enfermer les fichés S, c'est tomber dans une société qui est totalement différente. Donc oui, pour poser les questions, attention toutefois à ne pas sacrifier les état de droit avec la nécessaire lutte contre le terrorisme. C'est toute la difficulté pour nos sociétés.
Natacha.
Oui, mais justement, là, on est bien dans l'idée d'utiliser tous les outils que permet notre état de droit. Et si cet outil-là a été prévu, c'est justement pour répondre à des cas spécifiques. Or, il ne s'agit pas... Je suis totalement d'accord sur le fait que je ne supporte plus, moi non plus, d'entendre les rodomontades de plateaux télé. Il faut les enfermer tous. Non, justement, il ne faut pas les enfermer tous. En revanche, il faut systématiquement utiliser cet outil-là, en plus de tous ceux que nous avons dans l'arsenal juridique, pour expliquer qu'il y a une idéologie qui est une idéologie qui nous a déclaré la guerre, qui est mortifère. C'est un ennemi. C'est-à-dire cette idéologie qui consiste à dire que, au nom d'une supposée lecture totalement délirante de textes religieux, il faudrait venir tuer partout des Français. C'est une guerre contre nous, donc nous répondons.
Là-dessus, je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on oscille entre deux grilles de lecture qui sont, à mon avis, toutes les deux fausses et qui nient le caractère idéologique du conflit qui vient. Soit on explique que c'est une guerre de civilisation et dans ce cas-là, c'est une religion ou une civilisation qu'on aurait affrontée, ce qui est complètement faux. Et ce qui est extrêmement dangereux, soit on traite ça simplement comme si c'était une affaire de hooliganisme ou de terrorisme, sans le qualifier idéologiquement. Or, c'est vrai, il y a une idéologie, et c'est sur cette idéologie que fleurissent les initiatives terroristes. Et donc, il y a un conflit idéologique à assumer de manière très claire. Je pense que on va vers cette attitude-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'attitude qui était celle de beaucoup d'élites françaises il y a 2 ou 3 ans.
Le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et dans l'actualité, un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France, un document qui sème le trouble, titre Le Quotidien, alors que la 9e séquence de grève commence aujourd'hui, une note de travail interne qui ouvre une brèche pour une possible privatisation de la SNCF, Natacha. La SNCF et le ministère des Transports démentent, mais Le Parisien raconte qu'une société qu'il y a une réunion où la SNCF demande au gouvernement la possibilité d'ouvrir à d'autres que l'État la possibilité de détenir des titres de la future entreprise SNCF.
Alors voilà, c'est toute la complexité de ce document.
Donc c'est si complexe que j'ai été un peu clair, je pense, en l'expliquant.
Alors, on va la refaire. Donc, oui. Cette réunion s'est tenue le 4 mai, réunion de travail. Le Parisien donc a obtenu le compte-rendu de cette réunion entre le ministère des Transports, le cabinet du ministre des Transports et la direction de la SNCF. Et il était question du caractère incessible des titres de la future entreprise SNCF, puisque en fait l'un des points d'achoppement de cette réforme, c'est le changement de statut de la SNCF, qui doit donc devenir une société anonyme, mais à capitaux non cessibles. C'est ce qu'on nous expliquait.
C'est beaucoup
donc
plus clair, merci.
La privatisation était un fantasme, puisque l'État ne pourrait pas céder les capitaux. Or, dans cette réunion, la compagnie, la SNCF, la direction de la SNCF, a demandé, certes, à ce que la holding qui va être créée, on ne puisse pas en céder les capitaux. En revanche, si la holding est protégée, rien n'empêcherait d'ouvrir le capital eh bien, des différentes filiales. Les filiales, c'est quoi? C'est SNCF Mobilité, c'est SNCF Réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait quand même privatiser à terme la SNCF, en tout cas le transport de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est, comment dire, on le savait. Si on crée une société avec des titres, des capitaux, même si on déclare qu'à un instant T, ils sont non cessibles, ça veut dire que potentiellement, un jour, on peut décider le contraire. Mais là, ça signifierait, c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir ce qui s'est dit dans cette réunion et ce que ça signifie, ça signifierait quand même que, en effet, la privatisation n'est pas qu'un fantasme de complotiste quelconque.
Raphaël.
Non, non seulement c'est pas un fantasme, mais en réalité, quand on écoute la rhétorique qui est utilisée, c'est même peut-être une conséquence logique. C'est-à-dire que quand on parle d'un service public exclusivement sous le biais et le prisme de sa rentabilité, du fait qu'il ne doit pas avoir de dette, quand on en parle comme d'une entreprise privée et qu'on ne fait plus la distinction en fait entre la nature même d'une mission de service public et le caractère d'une entreprise privée dont le but est d'être à l'équilibre ou de faire de l'argent, eh bien on aboutit nécessairement à ne plus faire de distinction et donc à laisser la porte ouverte, alors si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard, à la privatisation.
Donc, histoire à suivre, il faut signaler que la ministre des Transports déclare que c'est une réunion de travail. Tout cela n'est pas arbitré. On aura évidemment l'occasion d'y revenir.
Bien sûr.
Bien sûr. Pendant ce temps, cette semaine, de nombreux étudiants passaient ou essayaient de passer leurs examens. C'était notamment le cas des étudiants de l'université de Nanterre, des examens prévenus hier et avant-hier qui devaient se dérouler à la maison des examens d'Arcueil et qui ont été reportés. Écoutez, Éric Coquerel, député La France Insoumise, il était aux côtés de ses étudiants pour affirmer son soutien.
On ne peut pas répondre à une mobilisation étudiante en décidant comme ça d'organiser des examens en dehors du campus. Ça ne s'est jamais fait, ça ne doit pas se faire.
Éric Coquerel, mégaphone à la main donc devant la maison des examens d'Arcueil. Raphaël Glucksmann.
Non, je pense que... D'une part, il y a une hypocrisie du gouvernement parce que c'est la sélection qui est proposée. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ne le disent pas. Enfin, je comprends tout à fait leur intérêt stratégique à pas le dire, mais je pense que là-dessus, il y a une hypocrisie forte. Et donc, je comprends la mobilisation. Mais d'autre part, je vais faire un « et en même temps » d'inspiration macronienne.
Allez-y.
D'autre part, eh bien, je ne pense pas qu'empêcher des étudiants, surtout quand on est un élu de la nation, de passer leurs examens quand eux ne font pas grève, soit une solution. Je pense que les scènes auxquelles on a assisté, eh bien, sont très problématiques et que ça discrédite la lutte qui est menée. Et je vois là un problème... pour moi, général, aujourd'hui, dans la disposition du débat en France, c'est qu'en gros, eh bien, le gouvernement veut avoir face à lui des bloqueurs ou des gens comme Coquerel, et il n'y a plus de remise en cause rationnelle de ces mesures. Et donc, ça permet, en fait, de finalement tuer le débat dans l'œuf et de délégitimer les corps intermédiaires, ce qui est extrêmement problématique pour moi.
Natacha.
Alors, je pense que nous pourrions avoir un débat, et un débat qui serait extrêmement intéressant, Raphaël et moi, sur la question de la sélection. Je ne pense pas justement qu'il y ait sélection pour l'instant, et je ne pense pas que la sélection soit en elle-même scandaleuse. En revanche, je pense qu'il n'y a pas eu de véritable débat, non pas sur Parcoursup, mais sur ce que ça nous raconte du sens, du rôle de l'université. Ça fait 30 ans qu'on évite de se poser la question de ce que doit être l'université par rapport aux filières professionnalisantes, par rapport aux écoles, par rapport aux grandes écoles. Tout ça, il faudrait à un moment donné le remettre à plat. En revanche, ça ne justifie nullement ce qui est en train de se passer. Là, je rejoins Raphaël. Et ça pose la question de ce qu'est une grève étudiante. De quelle nature peut être une grève étudiante ?
C'est une bonne question. Le comité de mobilisation de la fac de Nanterre a fait un communiqué dans lequel il dit « Dans ce contexte de grève nationale, maintenir les partiels, c'est vouloir casser la grève ».
Mais oui, mais sauf que les étudiants ne sont pas des travailleurs comme les autres, ça n'a rien à voir. Quand des cheminots font grève, par exemple, ils ne remettent pas en cause directement la possibilité pour les autres de travailler, de gagner leur vie, de vivre. Des étudiants qui ratent leur examen, l'examen, c'est ponctuel, c'est un moment spécifique dans une année. Vous avez des étudiants qui sont engagés pour des stages, ils ont besoin de ces examens. Ça n'est pas du tout la même chose de les empêcher de passer cet examen que de faire une grève quand on est salarié d'une entreprise. Donc la question de la modalité de la lutte est cruciale.
Raphaël.
Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas de sélection. C'est faux. Quand on impose des prérequis pour déterminer qui peut entrer dans une université ou pas, ça s'appelle une sélection. Et donc, il y a une forme d'hypocrisie à cacher ce mot, à expliquer que ce n'est pas le cas. Et ce qui nous empêche, en fait, d'avoir ce vrai débat. Parce que moi, je serais ravi de débattre avec vous sur la question de la sélection à l'université. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant.
Non, mais on aura le temps et on prendra le temps de le faire une autre fois. Allez-y,
oui,
Raphaël.
Je pense que ce serait nécessaire.
Puisque cette question, elle va continuer de se poser, puisque les mouvements continuent. En l'occurrence, deux universités restent bloquées, Rennes 2 et Nanterre. Cinq autres perturbées, Limoges, Nantes, Marseille, Sorbonne Université et Paris 8. L'histoire est donc loin d'être terminée.